tous unis contre le masque, contre ce petit bout de tissu élastique. C'était hier dans les rues de Berlin, 15 000 manifestants criant, hurlant leur droit à sortir, découverts, visage à l'air. La grogne est partie des États-Unis. Le masque y est dénoncé depuis des semaines au nom de la liberté, des droits fondamentaux, de la Constitution, jugé dangereux, inutile, antidémocratique.
Narrative. And when you wear a mask, which you can certainly do, you are further pushing the agenda that is condemning all of us and keeps us living in a state of terror.
Certes, aucune étude ne prouve l'utilité du masque, mais il existe un consensus scientifique pour dire qu'il aiderait à maîtriser la propagation du virus. Si ces mouvements s'étendent rapidement, c'est grâce à la toile. Le net, les réseaux sociaux constituent un terreau fertile pour les anti-masques. Ils y parlent de machination, de manipulation, expliquent que 90% des gens ne savent pas porter correctement le masque. Cela augmente donc le risque de contamination, alors autant ne pas le porter. Et certains y mettent les moyens.
Welcome to the new norm. 700 million days of education have been lost forever. The world our children knew just 100 days ago has been taken. Everything that made us human and made life a beautiful adventure has been taken away.
La France n'est pas en reste, pas de manif, mais des vidéos de ce genre.
Le masque nous enlève la plus grosse partie de notre air, de notre oxygène. Donc du coup, le masque peut nous faire crever.
Si la grogne reste essentiellement verbale, un cas dramatique a fait la une. Un chauffeur de bus tabassé à Bayonne par des personnes refusant de porter un masque est mort des suites de ses blessures. Rien de tel chez nous, même si une certaine colère se fait parfois entendre. Un recours a certes été introduit devant le Conseil d'État, pas contre le masque obligatoire, mais pour dénoncer les sanctions pénales au non-respect du confinement. Sanctions jugées discriminatoires.
Alors Eric, combien de vaccins sont actuellement à l'étude?
Alors il y a environ 200 candidats vaccins à l'essai dans le monde actuellement. 25 d'entre eux sont en phase clinique, c'est-à-dire qu'on les teste sur quelques dizaines de volontaires humains en bonne santé pour détecter les éventuels effets secondaires. 4 sont même en phase 3, la dernière étape avant la production avec des tests à plus grande échelle. L'américain Pfizer, par exemple, s'apprête à mener des tests auprès de 30 000 personnes dans le monde. Mais tous ces chiffres varient de jour en jour. Certaines équipes se regroupent, d'autres abandonnent carrément. C'est une véritable course contre la montre qui mobilise en fait des centaines d'entreprises privées, de labos et d'universités. Mais on estime que les candidats sérieux qui ont une chance d'aboutir ne dépassent pas la dizaine en fait.
Alors les investissements sont massifs, hein, on le devine. Est-ce qu'on a une idée un peu précise des budgets consacrés à toutes ces recherches ?
Honnêtement, impossible de connaître le budget total investi, mais c'est colossal. Rien que les États-Unis ont déjà déboursé plus de 6 milliards de dollars. Alors, ce n'est pas de l'argent donné aveuglément à la recherche. Il y a une contrepartie. En retour, les pays veulent s'assurer une priorité sur les vaccins qui sont produits. Ainsi, les États-Unis, encore eux, viennent de signer un accord avec le français Sanofi et le britannique GSK pour 2 milliards d'euros contre la garantie de disposer de 100 millions de doses de vaccins. L'Union européenne, elle, a réservé 300 millions de doses, mais on ignore le montant de l'accord. Quant à la Belgique, eh bien, elle joue un rôle important dans cette course, puisqu'une partie de ces vaccins pourrait être produite chez nous, y compris dans le Brabant wallon. Mais Maggie de Blocq ne compte pas en profiter pour négocier des priorités. Notre pays s'inscrit, dit-elle, dans la démarche européenne.
Quand est-ce qu'on pourra se faire vacciner contre le Covid-19?
Alors là, c'est évidemment la question à plusieurs milliards de dollars. Il faut savoir que le développement d'un vaccin prend normalement une dizaine d'années. Alors ici, avec le Covid-19, on a mis le turbo, évidemment, ce sera plus rapide. Mais il faut quand même du temps pour effectuer les essais, obtenir l'approbation des autorités sanitaires et puis produire ces doses à plusieurs milliards d'exemplaires. Cela dit, certains crient déjà victoire. Hein. La Russie a annoncé qu'elle allait produire 2 vaccins à grande échelle, à échelle industrielle, dès le mois d'octobre. La Chine aurait même déjà commencé à vacciner ses militaires sans attendre la fin des tests. En fait, c'est une course stratégique et médiatique autant que sanitaire et financière. Certains comparent même la recherche du vaccin au début de la conquête spatiale avec sa part de bluff, d'effet d'annonce et de secret bien gardé. Il y a même un aspect politique. Donald Trump, par exemple, joue peut-être sa réélection sur la découverte d'un vaccin avant le scrutin de novembre. Mais d'après les experts les plus raisonnables, eh bien, il faudra attendre 2021, voire même la fin 2021, pour disposer d'un ou de plusieurs vaccins de masse.
C'est comme un roman de John le Carré. Mais aujourd'hui, les espions se cachent derrière des écrans d'ordinateur. Ils s'appellent Li Xiaoyu et Dong Jiaxi. Le FBI les recherche pour espionnage contre des entreprises et des laboratoires du monde entier. Ce député fédéral écolo s'est procuré l'acte d'accusation du département américain de la justice. Il y retrouve comme 19e victime de ces hackers une société belge.
On sait qu'il s'agit d'une entreprise de software IT, high-tech, qui est liée à la recherche de la dynamique des fluides. Et donc on sent bien qu'il s'agit d'une société particulièrement spécialisée, informatique, de haute technologie. Mais on n'a pas aujourd'hui l'identité exacte de cette entreprise en Belgique.
Alerté récemment par les autorités américaines, le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête sur les faits qui remontent à 2018. Selon ce spécialiste, ces hackers ont pillé des secrets d'entreprise pendant 10 ans en utilisant une technique appelée le cheval de Troie.
Ils vont prendre contact avec des gens au sein de l'entreprise tenant compte de la fonction occupée en leur envoyant un message qui va automatiquement retenir leur attention. Et donc, on a constaté par exemple que pour l'instant, ils vont utiliser des messages où ils envoient un document, mais par sécurité, disent-ils, il est crypté. Donc, ils envoient à la personne le petit code pour ouvrir le fichier en question et en prendre connaissance. Et à ce moment-là, en arrière-plan, un logiciel malveillant va s'installer qui va permettre ensuite l'accès au serveur, puisqu'ils auront un canal, un cheval de Troie, qui leur permet de rentrer dans la structure.
Plus récemment, la crise du Covid a concentré l'attention de ces espions sur des laboratoires travaillant un vaccin contre le Covid.
Campaign targeted intellectual property and confidential business information held by the private sector, including COVID-19 related treatment, testing and vaccines.
Et pour ce professeur en géopolitique, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne pour nous protéger contre le cyberespionnage.
Les multinationales se protègent, les États-Unis ont des systèmes de protection, ça leur coûte des milliards de réparer parfois les dégâts que les Chinois ont faits, mais les petites entités, qu'elles soient des petits laboratoires ou que ce soit les universités, n'ont pas les mêmes moyens de protection contre ce type d'espionnage.
En pleine crise Covid-19, une nouvelle guerre froide oppose cette fois les États-Unis à la Chine et elle pourrait avoir pour victime collatérale les laboratoires et universités européennes.